Nous allons enchaîner maintenant donc avec nos intervenants. Alors, je suis tout à fait ravi de. On parlait de mutation, on parlait de migration. Alors, on est à Marseille, on va parler de migration. Ça paraît une tarte à la crème, mais en fait, moi, j'ai travaillé 10 ans à Marseille et j'étais engagé dans une association qui s'appelait Migration Santé Provence. Et j'étais confronté aux relations entre santé et migration de manière importante dans cette. Alors, vous allez faire une présentation à deux voix. Donc, ça veut dire que vous avez deux fois moins de temps chacun.
Pas de souci. Du coup, on a un machin pour changer les slides.
Oui, ou... il a été embarqué. Regardez, il a été embarqué. Non, il a été écarté.
Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs et organisatrices de nous permettre d'intervenir et d'amener cette question du public migrant et des questions que ça peut poser dans le champ de la santé mentale.
Alors, j'espère. Je vous laisse vous présenter puisque vous avez pris la parole.
Ah, pardon. Je me tais. Non.
Bien, je vais présenter. Je vais nous présenter. Merci. Alors, donc oui, d'abord, on remercie les organisateurs d'avoir donné une place à cette problématique, hein, qui est celle de la migration et de la santé mentale. C'est un sujet extrêmement brûlant, politiquement chaud, mais qui interpelle donc les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, mais pas que, les sociologues aussi. Donc, je nous présente Nicolas Chambon. Donc, qui est notre sociologue, donc à l'Orsper Samdara, et puis moi je suis Halima Zerouk-Vial, donc psychiatre et directrice donc de cet organisme dont va vous parler un peu plus Nicolas.
Donc, rapidement, l'idée c'est qu'on présente un peu la structure, ensuite que je donne des éléments de contexte par rapport à la question migratoire, pardon, et Halima présentera les questions de santé mentale. Voilà. Donc très très rapidement, l'Orsper Samdara, enfin l'Orsper pardon, a été fondé au milieu des années 90 par un psychiatre qui s'appelait Jean Furtos et un sociologue qui s'appelait Christian Laval, enfin qui s'appelle toujours, à une époque où se thématise et se problématise la souffrance psychique d'origine sociale. Et donc je rejoins ce que disait Alain Ehrenberg, et c'est vrai qu'on s'intéresse à l'interface problématique entre ces questions sociales et ces questions de santé mentale. Donc on est inscrit à l'hôpital du Vinatier et soutenu par divers financeurs qui sont sur les slides. Donc un pôle ressources, donc très rapidement des activités de formation, des journées d'études, donc où à chaque fois on cherche un peu à saisir voilà, les problèmes sur le terrain et tenter d'une certaine manière d'y répondre. Par exemple, en ce moment, on fait des formations aux pratiques de soins avec interprètes et on sensibilise aussi les interprètes au champ de la santé et de la santé mentale. Et du coup, il y a aussi des petits films d'animation que vous pouvez retrouver sur Internet. On édite la revue Rhizome, notamment grâce à un comité de rédaction. Il y a des membres qui sont ici présents dans la salle. Donc la prochaine thématique du numéro Rhizome, ça va être sur le traumatisme. Donc la question qu'on pose, c'est soigner le traumatisme, point d'interrogation. Et donc logiquement, il sera dans 15 jours dans les boîtes aux lettres. Voilà. Et donc pour ma part, je suis responsable de la partie recherche. Donc voilà, on essaye encore une fois d'essayer de comprendre ce qui pose problème sur différents terrains. Donc terrain de l'innovation, terrain des expérimentations, mais aussi de ce qui pose problème. Et donc là, s'agissant de la migration et de la santé mentale, on a une grosse recherche sur l'interprétariat en santé mentale. Donc voilà, c'est un peu complexe de définir de qui on parle quand on parle de migrants, hein, puisque, et vous voyez différentes catégories sur le slide, il faut savoir que les problématiques administrativo-juridiques sont extrêmement importantes et surtout très complexes. Voilà. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions et je suis pas encore complètement compétent sur toutes les subtilités juridiques. Voilà. Ce qui m'importe à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au regard de la crise des années 70 et de l'évolution de nos sociétés, il y a une restriction voilà, voulu par la puissance publique en termes d'opportunités de régularisation des personnes qui arrivent sur le territoire français. Donc aujourd'hui, hors regroupement familial et étudiant, la plupart des personnes vont demander l'asile quand ils arrivent sur le territoire français. Je dis ça aussi pour dire que quand on demande l'asile, ça régularise la présence sur le territoire français. Donc, faut pas confondre une migration irrégulière avec une présence régulière ou irrégulière. Demander l'asile, c'est en situation régulière sur le territoire français. Mais quand on demande l'asile, en tout cas pour ce qui est de la France, on est forcément assisté, et notamment assisté par des intervenants qui peuvent aider à la mise en place du récit de demande d'asile. Et la plupart, et malheureusement pas la totalité des personnes, sont hébergées dans des dispositifs nationaux d'accueil. Donc au niveau du contexte général, et c'est des choses qu'on entend parler sur la scène médiatique, voilà, il y a une forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile en France. Donc il a plus que doublé en 10 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2017, pardon, il y avait à peu près 100 000 demandeurs d'asile. Et donc depuis les années 80, il y a eu une bascule où c'est pas parce qu'on demande l'asile qu'on a le statut de réfugié, donc il faut amener les preuves de ce que l'on avance. Donc c'est pas parce qu'on vient de tel ou tel pays qu'on est automatiquement réfugié. Et donc le taux d'acceptation de la demande d'asile, vous avez le chiffre sur le PowerPoint, c'est environ un peu plus d'un tiers des personnes qui, entre les deux tours, vont obtenir le statut de réfugié. Donc il y a une dizaine d'années, c'était que 25%. Donc il a quand même augmenté, mais la norme, ça reste d'être débouté. Donc on peut parler d'une certaine crise de l'accueil des migrants aujourd'hui en France. Alors, crise de l'accueil qui n'est pas forcément en adéquation avec cette crise migratoire de 2015. Avant 2015, en France, il y avait une problématique déjà d'accueil des demandeurs d'asile en France. Et voilà, on a un peu aussi de difficulté, nous, à parler de crise migratoire, parce que il y a fort on pense que le phénomène est voué à se pérenniser, voire à s'amplifier. Donc ça, c'est intéressant aussi pour vous, pour nous à penser, parce que du coup, ça appelle aussi une réforme peut-être structurelle des modes d'accompagnement, voire de soins des personnes migrantes aujourd'hui dans les pays occidentaux. Donc quand je dis que le phénomène peut s'amplifier, je pense notamment à la question des mutations dites climatiques ou des migrations dites climatiques qui peut-être vont obliger à nombre de personnes de devoir migrer de manière contrainte. Voilà, donc deux choses importantes au niveau du contexte. Donc voilà, l'irrégularisation, je l'ai dit, la norme c'est d'être débouté. La plupart des personnes qui sont déboutées vont rester sur le territoire français. Donc le nombre d'irréguliers augmente. Les opérateurs de l'asile vont parler de stock. Voilà, donc c'est un terme qui n'est pas forcément à propos, mais en tout cas il y a un nombre important de personnes qui ont des problématiques d'ordre administratif. Pour certaines qui vont basculer ou demander un titre pour raison sanitaire. Donc voilà un chiffre que certains d'entre vous peut-être connaissent, mais aujourd'hui il y a plus de 300 000 personnes qui ont l'aide médicale d'État en France. En 2002, c'était 75 000. Forte augmentation. Et j'ai mis sur le slide les chiffres de la région Rhône-Alpes. Donc voilà. Et bon, on va pas développer là-dessus, mais en plus il y a une spécificité, c'est que quand on est irrégulier en France, on a le droit à l'aide médicale d'État, donc on a le droit aussi aux soins. Processus aussi de précarisation, donc dû à une procédure qui est longue et complexe, mais aussi aux conditions d'hébergement. Même si on a la chance aujourd'hui d'être hébergé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions ne sont pas forcément à la hauteur et beaucoup d'intervenants sociaux s'en plaignent. Donc, même aujourd'hui, il y a une problématique d'intégration, voire de santé mentale pour le public réfugié. Voilà. Il y a une dizaine d'années, être réfugié, a priori, on avait un titre et on pouvait, entre grosses guillemets, être intégré dans la société française. Aujourd'hui, la puissance publique nous commande une étude sur la santé mentale des réfugiés. Voilà, c'est une nouvelle problématique. Il y a des personnes qui ont le statut très vite et qui ont été à la rue, par exemple, donc en situation d'extrême précarité, ou qui ont moins de 25 ans, qui n'ont pas de droit. Enfin, voilà. Donc c'est une grosse, grosse problématique. Et qui fait qu'il y a aussi des nouveaux acteurs qui sont amenés à accompagner, voire à soigner les personnes en situation de migration. Et je pense notamment aux acteurs du champ de l'humanitaire, qui ont aussi d'autres modalités d'intervention auprès des publics qui sont en situation de précarité. Voilà, donc j'ai mis quelques données là sur le slide. Dans les centres d'accueil de soins et d'orientation de médecins du monde, on retrouve en quasi-totalité, dans de nombreux cils, des publics migrants, et pour beaucoup qui sont sous aide médicale d'État. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines permanences d'accès aux soins de santé, où le public des équipes mobiles psychiatrie précarité se destine aussi à des personnes qui sont migrantes. Ce qui nous laisse à penser que voilà, ça problématise les modes d'intervention clinique auprès de ces publics, sachant qu'il n'y a pas forcément une adéquation idéale type entre un public et une modalité clinique d'intervention. Je le fais vite, mais du coup, aujourd'hui, on parle, nous, plutôt de migrants précaires, pour dire qu'on a un public qui bride des questions culturelles, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui bride le fait d'être, on va dire, contraint à migrer, en tout cas qui vont demander l'asile, donc qui vont être au format de victimes, mais surtout qui sont en situation de précarité. Donc on a un public qui cumule différentes formes de vulnérabilité, donc on a un nombre d'acteurs assez important autour de ces personnes. Et donc aujourd'hui, où la puissance publique a une grosse réflexion sur la notion de parcours, faut bien voir que pour une personne, il y a une très grande confusion entre ce qui est de l'ordre de problématiques administratives, sanitaires, sociales, voilà. Et beaucoup ont du mal à s'y repérer. Donc, simplement, je voulais dire, je passe très vite sur ce slide, mais que ce qui se thématise et se problématise auprès des acteurs soignants, c'est vraiment de savoir quelle est la demande en santé et en santé mentale de ce public. Voilà. Pour le faire vite, quand Jean Furtos était à l'Orsper, il avait extrêmement, entre grosses guillemets, théorisé autour de la non-demande. Là, on n'a pas forcément affaire à un public qui n'est pas demandeur. Sauf que voilà, les demandes ne sont pas forcément au bon endroit, ou en tout cas, on n'est pas forcément en capacité de pouvoir y répondre. Donc évidemment, il y a la question de la souffrance qui apparaît massive. Donc évidemment, ce qui se problématise, c'est de savoir si ça correspond à des cadres nosographiques de la psychiatrie, et a priori très souvent non. Quoique, aujourd'hui, il y a peut-être cette idée que ce qu'on appelle traumatisme correspondrait à ce qu'on appelait souffrance psychosociale il y a une vingtaine d'années. Limba, je pense que tu pourras y revenir. Et voilà, tout le bain aujourd'hui qu'il y a autour des réflexions sur la création des centres référents trauma nous amène aussi peut-être à pouvoir évoluer sur cette question. Toujours est-il, et ça a été dit tout à l'heure, mais voilà, quand on est sur des permanences d'accès aux soins, quand on est sur des équipes mobiles psychiatrie précarité, on est sur des logiques d'accès vers des dispositifs de soins. Sauf qu'on peut penser qu'il y a un écart entre de l'accès au droit, de l'accès aux soins et du soin. Donc une grosse, grosse problématique d'orientation de ce public. Alors ce matin, la personne d'ARS parlait d'inefficacité du soin. Moi, je ne sais pas si j'ai employé ce terme. En tout cas, nous, on entend beaucoup d'impuissance du côté des soignants et des personnes qui ne se sentent pas forcément compétents pour répondre aux problématiques auxquelles les personnes font face. Et je te laisse la parole à Lima.
Merci. Bien, donc je remercie Alain d'avoir évoqué, Alain Ehrenberg, d'avoir évoqué tout à l'heure toutes ces questions entre la frontière entre la santé mentale et la psychiatrie, parce que pour ces problématiques de migration, c'est vraiment ce qui est prégnant. Où commencent les problématiques de santé mentale avec ce public? Où va-t-on vers... Où est-ce qu'on trouve des problématiques de psychiatrie? Et c'est une question majeure auxquelles sont confrontés les soignants qui se retrouvent donc avec ce public. Donc cette question est très importante avec, Alain en a parlé, des problématiques multiples, des vulnérabilités multiples et des tableaux cliniques complexes qui associent des troubles post-traumatiques mélangés avec des questions de précarité et dont les effets sur la santé mentale sont importants, donc des problématiques sociales. Ce qu'on peut retrouver dans la littérature internationale, c'est une prévalence des dépressions et des troubles anxieux très importante. Mais en même temps, tout ça est mélangé à la question de la précarité sociale, ce qui souvent, là j'ai mis aggrave la méfiance vis-à-vis des institutions des patients, mais en réalité aussi aggrave souvent la méfiance des soignants vis-à-vis de ce public-là, puisqu'on a l'impression qu'il y a toujours une visée utilitaire de l'accès aux soins. Ah, oui. Donc ces problématiques-là, on voit bien que la question de la transversalité est vraiment importante et importante à réfléchir pour ce public, mais pour d'autres également, puisque donc la prévalence de l'état de stress post-traumatique est augmentée, mais on a souvent aussi affaire à des situations où il n'y a pas forcément d'état de stress post-traumatique, mais de la souffrance psychique. Pourquoi c'est un enjeu, la question de la prise en compte et de la prise en charge de l'état de stress post-traumatique, en raison des effets délétères que cela peut avoir sur l'inclusion sociale, sur, moi j'ai pas mal de patients qui par exemple ont des troubles cognitifs, notamment mnésiques par exemple, et qui ont beaucoup de mal à l'apprentissage du français par exemple. Ces questions sont aussi majeures pour les enfants. On oublie que dans les 100 000 dont vous a parlé Nicolas, la moitié environ, c'est des enfants, donc des adultes de demain, qui pour une grande partie sont dans des situations d'être déboutés et les familles essaient de régulariser. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire de la précarité pendant de longues années, SDF, voilà, tentative de régularisation par 36 000 voies administratives complexes, et voilà, et les années passent. Donc l'enjeu est de repérer donc ces troubles post-traumatiques et de les traiter. Donc est-ce qu'on a affaire à des spécificités concernant ce public? Est-ce que le fait de migrer est pathologique? Bien sûr, non. Le fait de migrer n'est pas pathologique en soi. Mais on a affaire à des spécificités liées au parcours de ces personnes. Un parcours qui... Donc nous, on travaille beaucoup plus sur les primo-arrivants et non pas sur les deuxième ou troisième générations. Mais en tous les cas, les primo-arrivants actuellement, on voit qu'il y a une expérience migratoire avec un parcours extrêmement difficile et traumatique. Ceux qui traversent, par exemple, la Libye subissent des violences particulièrement graves. Donc, et ce qu'on voit dans le parcours, c'est il faut s'attacher à essayer de repérer ce qui se passe avant la migration, c'est-à-dire qu'est-ce qui a conduit à cet exil forcé. Ensuite, donc l'expérience qui peut durer de longs mois, l'expérience migratoire, pardon. Et puis ensuite, et ce qui vient compliquer aussi les tableaux, c'est tout ce qui est vécu post-migratoire, c'est-à-dire ce qui se passe dans le pays d'accueil, avec la précarité administrative, sociale, économique qui vient se surajouter. Donc on a affaire à des états de santé où pas mal de facteurs de vulnérabilité interviennent dans des situations d'attente, d'insécurité administrative majeure. Tu veux parler de ça?
Non.
Non.
Bon, du coup, on a peu de temps, donc... On va pas parler de ça non plus. Du coup, je dis deux, trois mots sur...
Oui,
voilà. Non, parce que du coup, on a...
C'est un vrai psychopathe. Hein.
Non, mais du coup, on est mal à l'aise. En tout cas, je suis mal à l'aise parce que je suis pas sur le terrain de l'organisation. Hein. Donc, vous le voyez, et je suis pas clinicien. Donc, j'amène des problèmes. Et bon, j'ai dit, comment ça peut les intéresser? Bref. Donc, la première piste de travail, et du coup, Alima présentera les suivantes. Non, c'était sur la question des pratiques, parce qu'effectivement, c'est notre cœur d'activité aussi, d'intervenir auprès de professionnels. Et voilà, aujourd'hui, il y a un développement, et on l'a dit, des équipes mobiles. Et ce qui me semble vraiment un fort enjeu, c'est le devoir, pour beaucoup d'intervenants et d'intervenantes, de s'adapter aux singularités des personnes. Donc ça, il y a une question qui se pose, c'est qu'a priori, pour aujourd'hui, pour bien intervenir, pour bien soigner, il faut s'adapter aux situations, hein, et quitte par moment et parfois à s'écarter des règles et des normes prescrites. La question moi, qui se pose à nous, c'est qui assure ce risque, hein, voilà, alors qu'a priori, l'institution l'assure de moins en moins. Hein. Donc voilà, quel dispositif de soutien apporter aux professionnels pour donner du sens? Tout à l'heure, voilà, on a évoqué la question du sens. Moi, d'une certaine manière, je trouve ça très bien que la question du sens se pose. Hein, parce que du coup, elle n'est plus posée par l'institution. Mais du coup, à chaque fois, il faut effectivement descendre en singularité et se poser les effets de notre action sur les personnes concernées. Voilà, la question des médiations. Hein,
Tout à l'heure, j'ai évoqué l'humanitarisation du champ de la migration. Là, aujourd'hui, à l'Orsper Sandara, on travaille avec une psychologue qui était à Calais auparavant pour Médecins du Monde. Quand j'étais allé la voir, elle travaillait avec des leaders communautaires. Moi, j'appelais ça des passeurs à l'époque. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des intervenants en santé mentale, estampillés psychologues, hein, qui, pour aller au plus près des personnes concernées, sont obligés de trouver des relais. Et ça, c'est une véritable question aujourd'hui dans le champ de la migration. Il y a un succès des formes d'accompagnement pair. Voilà. Il y a l'expérience, mais parfois liée aussi au fait d'appartenir à une communauté. Voilà. Pour la puissance publique, aujourd'hui, ça pose question. Mais en même temps, là où l'État n'est pas, c'est pris par d'autres, et notamment par, entre grosses guillemets, des communautés. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu aussi à pouvoir accompagner ces nouveaux modes d'intervention. Du coup, voilà, dans ce réajustement des pratiques, l'idée, je l'ai dit, de formation, mais aussi de proposer des stages croisés, en tout cas proposer aux intervenants sociaux de pouvoir rejoindre des dispositifs de santé mentale et inversement. Parce que du coup, on a peine à imaginer c'est quoi un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je vous invite à aller voir et inversement, et vous serez très, très surpris. Et du coup, mais ça va être évoqué, je pense, durant ces journées, hein, le succès de penser en termes de rétablissement aujourd'hui, ça traverse énormément aussi le champ du travail social. Hein, et ça aussi, c'est une nouvelle donne pour nous, et peut-être qui est d'une certaine manière rassurante et qui peut être aussi une bonne perspective, c'est qu'elles amènent ces intervenants sociaux à se préoccuper, entre guillemets, de la santé mentale des personnes accueillies. Donc, voilà, nous, on accompagne une équipe de CHRS qui a fait une formation orientée rétablissement. Et du coup, ce qu'on constate, c'est que, encore dans certains dispositifs trop précaires, ils peuvent être, et c'est un peu provoque de dire ça, mais nostalgiques de l'asile. En tout cas, être en attente de la psychiatrie qui prenne en charge des résidents qui ont a priori des troubles de santé mentale. Voilà. Ce changement un peu de paradigme, voilà, fait qu'ils sont moins en attente et ils sont plus aussi dans l'idée de se poser c'est quoi les conséquences de leur intervention pour le bien-être de la personne, et je trouve que ça, c'est plutôt bienvenu.
Autre piste de travail, donc je vous disais, c'est vraiment une question qui traverse tous les champs, et donc comment améliorer le repérage, c'est souvent ce que les travailleurs sociaux demandent. L'évaluation et puis l'orientation des situations, donc comment mettre en place des coordinations, c'est une problématique sans fin qui revient régulièrement, mais comment mieux travailler dans des champs qui sont cloisonnés entre les différents secteurs. La question du logement se pose particulièrement aussi pour ce public qui se retrouve à la rue, c'est un peu une nouvelle figure. Nous, ce qu'on constate dans les grandes métropoles de l'SDF des années 90, hein, le migrant en situation de précarité, la formation des travailleurs sociaux, la visibilité des dispositifs, déstigmatiser aussi la santé mentale auprès des intervenants sociaux. Je reviens en arrière là, de ce que disait Nicolas par rapport au rétablissement. Nous, on a mis en place un groupe de pairs, c'est-à-dire un groupe de migrants qui aussi s'étayent pour essayer de mettre en valeur la question de la résilience, parce qu'il ne faut pas non plus essentialiser la question du traumatisme, hein, par ailleurs. Et puis, autre dernière piste de travail, donc comment améliorer l'accès effectif aux soins. Ce qu'on constate, c'est souvent c'est des sujets qui vont dans les dispositifs préconisés pour des personnes en situation de précarité, comme les PASS ou les équipes mobiles psychiatrie précarité, mais qui ont du mal à ensuite orienter ces publics-là vers le droit commun ou vers le libéral. Et puis, comment la nouvelle question qui va se poser, qui va peut-être traverser d'autres champs, c'est actuellement, donc depuis le 5 novembre, ont été annoncés 10 centres, 10 trauma centers sur toute la France, avec aussi un centre national ressources résilience. Donc comment est-ce qu'on va réfléchir à l'articulation entre ces centres spécifiques référents avec le travail de secteur qui se fait au quotidien. Voilà, comment aussi travailler dans des territoires isolés peut-être de la télémédecine, peut-être développer de l'interprétariat par visioconférence. Voilà, des idées peuvent émerger. C'est fini ?
C'est fini.
Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être les photos après. Ça fait rire. Non, allez-y, allez-y. Excusez-nous avec des photos. Voilà. Donc, je sais pas, des questions, des remarques ?
Je vais juste préciser l'intentionnalité, parce que la question d'émigration, c'est un sujet à part entière, et c'est aussi l'exacerbation dans la réflexion qui était la nôtre pour préparer le congrès, de problématiques plus générales, et en particulier de la difficulté ensuite à penser la complexité en termes de solutions. Dès lors, on le voit bien à travers toutes les interventions que cette complexité, on se la prend en pleine figure et qu'elle s'impose à nous. Alors, un des premiers aspects, et c'est une première illustration de cette exacerbation, c'est qu'on nous présente des sujets sous l'angle de l'actualité, ce qui fait penser qu'ils sont éphémères, alors qu'on voit bien qu'ils sont durables. Et deuxièmement, et on le voit, je pense, appel à témoignage, dans les grandes agglomérations, que l'autre élément d'exacerbation, au regard de la diversification de nos publics, de nos quartiers, de nos communautés, c'est que nos dispositifs de soins statiques, standards, vaches sacrées, et la mobilité peut en faire partie, derrière l'équipe mobile, etc., à certains moments, et c'est un facteur d'ailleurs de désengagement parfois du territoire, ne rencontrent plus leur public, ne rencontrent plus leur patientèle, parce qu'on va devoir, en termes de complexité, les penser dans la plasticité et dans l'auto-adaptabilité à des choses qui ne sont pas des territoires, mais qui sont des populations et des personnes sur des territoires. Et je trouve qu'effectivement, la question des migrations, elle exacerbe tout ça, mais elle n'est jamais que l'illustration très focalisatrice ou très focalisée d'une problématique plus générale à laquelle on est confronté de plus en plus, et notamment parce que c'est un élément fort de différenciation des territoires urbains et très agglomérés, peut-être par rapport à d'autres territoires, mais comme cela je ne les connais pas assez, je ne vais pas trop m'avancer.
Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment une sorte de loupe qui agrandit un peu là-bas, toutes ces tensions. Je le disais d'abord, où s'arrête la frontière entre santé mentale et psychiatrie, c'est-à-dire à partir de quand on passe de la souffrance psychique, et est-ce qu'on est dans de la prévention pour ne pas tomber dans la dépression ou l'état de stress post-traumatique. Donc, toutes les questions de prévention sont vraiment exacerbées. Et puis, La question fondamentale que ça met en éclairage, c'est que la psychiatrie n'est qu'un maillon de la chaîne. La psychiatrie n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est-à-dire on a des problématiques complexes et la psychiatrie est là pour faire... Elle n'est pas totalisante. Et je crois que dans le passé, il faut revenir dans le passé, il y avait peut-être des excuses ou je ne sais quoi, mais il y avait cette tendance à vouloir être totalisant et à se préoccuper de tout concernant un sujet. Or, là, avec cette problématique-là, c'est ce que ça met vraiment en exergue, c'est que non, nous sommes qu'un maillon de la chaîne. Et quand mes collègues me disent « oui, vous vous occupez de choses qui sont plutôt politiques et ça n'a rien à voir avec la psychiatrie », non, nous occupons un autre niveau de choses qui concernent la psychiatrie ponctuellement, mais qui ne concernent pas que la psychiatrie. Et c'est pareil pour d'autres problématiques, c'est-à-dire la problématique de la schizophrénie ou de troubles bipolaires, ça ne concerne pas que la psychiatrie, ça concerne une société entière, des accompagnants au travail, des accompagnants au loisir, à la culture, les questions de logement. Et c'est pour ça que peut-être que ce qui est aussi cloisonné dans nos têtes, c'est aussi cloisonné aussi à un niveau plus haut. Enfin, lorsqu'on était au Conseil national de santé mentale, qui a disparu, et c'est Alain Ehrenberg, notre président, nous avions souvent évoqué ces questions, c'est-à-dire quand même au sommet de l'État, on a aussi un cloisonnement des différents ministères, et or, on a des problématiques qui traversent les ministères, qui traversent la question de l'éducation, la question de la justice, les questions de santé, de logement, et si on n'arrive pas à réfléchir effectivement ces complexités-là, on n'arrivera pas vraiment à avancer. On butera toujours sur, on passe de l'un à l'autre, on revient à l'un, on repasse à l'autre.
Un commentaire sociologique.
Vous avez pris des notes. Maintenant, je me taire. Faut se taire des fois.
Pas de souci. J'ai une question pour vous. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de votre champ de réflexion, mais il y a eu, il n'y a pas longtemps, un documentaire passionnant sur Arte qui parlait de l'histoire des migrations françaises. Et on y voit qu'il y a des vagues de migration, l'espagnole, l'italienne, la polonaise, qui ont toutes quelque chose de traumatique. Je voudrais savoir, de votre point de vue, ce qui change fondamentalement dans la situation actuelle. Puisque finalement, toutes ces migrations sans accompagnement se sont intégrées et globalement se sont intégrées heureusement. Qu'est-ce qui change ?
Dans mon slide, c'était peut-être pas très clair, mais une manière de lire l'histoire, c'est que pour ces types de migrations... À mon sens, il y avait. Alors, faut pas idéaliser non plus hein, l'intégration. Ça a été très compliqué. Il suffit de voir les coupures de presse ou les bouquins de l'époque. Il y avait quand même beaucoup plus de racisme. Il me semble même à l'époque qu'aujourd'hui. Hein, et je me permets de dire ça quand même, même si c'est un peu soumis à controverse. Alors sur la question du trauma, et je réponds un peu à l'envers, mais je reviendrai ensuite à ce que vous disiez. À mon avis, il y a trois spécificités et qui possiblement font que le registre biomédical peut être un peu en difficulté, c'est d'une la question de la complexité du trauma. C'est facile de le dire. Est-ce qu'on étend le truc en disant trauma complexe ? Je laisse les cliniciens y répondre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a la question de ce qui s'est passé au pays. Les premières victimes d'attentats, ce sont généralement les migrants, même en France, qui vivent des choses très très dures. Aujourd'hui, les routes migratoires... qui sont très très compliquées, très longues. Le passage par la Libye, il n'est pas sans conséquence. Et les conditions d'accueil. Voilà. On peut bien migrer, a priori, dans plus ou moins de bonnes conditions. Le fait de se retrouver à la rue, je pense, on est exposé à de la violence. Ça, c'est très très compliqué. Donc ça, effectivement, tu as évoqué les mineurs. C'est une cocotte minute. On va voir ce que ça va donner dans 20 ans. Donc complexité. Deuxième chose, le trauma, il est amené par d'autres que les personnes concernées. Le fait de passer par l'asile, le fait d'être accompagné au récit, d'une certaine manière, on est dépossédé de son histoire. En plus, si on est débouté, on est dépossédé aussi de son histoire. Donc ça tend beaucoup les soignants, je le vois. Mais du coup, pour avoir aussi ethnographié des temps d'accompagnement au récit, ça va loin, ça va fort. Et du coup, on a des juristes en intervention sociaux qui nous disent « mais la santé mentale, récupérez-les derrière ». À mon avis, il y a aussi un intérêt à sensibiliser, à former aussi ces juristes, à savoir comment finalement respecter la personne et pas autant dépathémiser qu'ils le font. Et la troisième chose, c'est que on a l'impression, en tout cas les intervenants sociaux, voire les soignants, ont l'impression d'être face à un trauma en train de se faire, pour le faire vite. En tout cas, d'être dans une société, voire eux-mêmes, de participer aux mauvaises conditions d'accueil de ces personnes. Et ça, c'est pas facile. On peut pas objectiver et dire ça s'est passé au pays, c'est culturel, c'est machin. Non, c'est là. Les gens, dans certains CADA, il y a des gens qui dorment devant le CADA. Nous, on a des psychiatres, alors en libéral, mais des fois qui laissent dormir des gens dans leur salle d'attente. On en est là, qui vont payer l'interprète de leur poche. Ça demande effectivement un engagement, mais qui n'est pas sans conséquence sur les personnes. Donc, par rapport à votre question, c'est une manière de répondre, cette complexification. Et peut-être aussi ce qui a changé, et je pense qu'on est tous et toutes confrontés à ça, c'est que, avant sur un slide, et je ne l'ai pas commenté, je dis la figure du migrant précaire ne correspond pas à celle du demandeur d'asile. En tout cas, c'est des choses que j'entends sur le terrain. Alors, à l'époque, c'était peut-être fictif, mais il y avait l'idée de migration collective. En tout cas, on se représentait bien qui on accueillait. Et la Convention de Genève, les années 50, elle se met en place à un moment où on accueille les victimes d'un bloc qu'on combat. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France fait en Syrie ? Moi, je suis même incapable d'y répondre. Donc vous voyez bien que notre représentation des raisons de la migration des personnes, elle est très confuse. Et qui migre, pourquoi, pour quelles raisons, c'est très individuel, ça demande à chaque fois de savoir. Voilà. Il n'y a pas que les bons, les méchants, enfin, je ne sais rien qui migre. Donc, voilà, il y a aussi une complexité, on va dire, géopolitique qui fait qu'il y a de l'écart entre ce qu'on se représente, d'une migration et la réalité des choses. Et c'est une petite parenthèse aussi. Je pense que voilà, ce cadre de l'asile est aujourd'hui pas forcément adapté. Et je me permets voilà, de faire le parallèle avec le projet asilaire, peut-être démocratique, l'asile psychiatrique, mais de mettre ensemble des personnes pour point commun d'être différents de nous, ça c'est un échec. Je pense. Et ça, c'est un véritable enjeu, même en psychiatrie, je pense, aujourd'hui.
Enfin, juste pour rajouter, dernier peut-être point. Aussi qu'on est... dernier point. C'est que peut-être, et c'est peut-être... Enfin, moi, j'espère que c'est aussi un progrès d'être attentif à la question de la santé mentale et au bien-être des personnes. C'est-à-dire qu'avant, on se préoccupait moyennement, on va dire, par exemple, de la santé mentale des femmes violées, maintenant un peu plus. Et je crois qu'on est dans un univers voilà, social qui se préoccupe un peu plus de la question de la santé mentale et de l'impact d'événements sur la santé mentale et des répercussions sur sa vie sociale, affective, professionnelle, etc.
Merci beaucoup. On va faire un quart d'heure de pause. Vous comptez un quart d'heure à partir de maintenant.